France Culture avec philosophie Géraldine Mulman.
Nous évoquons cette semaine l'œuvre de Denis Diderot. Il est temps, dans ce quatrième épisode, d'aborder sa philosophie de l'existence, le fatalisme, qui est incarné par le personnage Jacques dans son roman Jacques le Fataliste. Jacques le fataliste et son maître est le titre complet de ce roman que Diderot a écrit de 1765 à sa mort en 1784. Ce roman a paru sous forme de feuilleton dans un périodique français, La Correspondance littéraire, philosophique et critique, dont la direction avait été confiée par son propriétaire Melchior Grimm à Diderot et à Louise d'Épinay. Diderot reprend dans Jacques le fataliste toute une tradition de dialogue entre maîtres et valets. Et chez lui, c'est le maître qui s'étonne et s'interroge, et c'est le domestique Jacques qui est philosophe, certes un peu caricatural parfois. Mais qu'est-ce que c'est exactement le fatalisme? Une attitude qui s'en remet au hasard ou bien au destin? Et si ces deux choses, au fond, produisaient le même genre de discours, hasard ou destin, on parle de force qui dépasse la volonté humaine, et au fond, c'est cela qui compte. Est-ce alors la figure de Spinoza, mouton noir depuis un bon siècle, qui se profile derrière Jacques et derrière Diderot en cette fin du XVIIIe siècle? Mais encore, puisque dans un roman c'est le narrateur qui tire les ficelles, est-il possible d'écrire un roman fataliste sans interroger le roman, le genre romanesque lui-même? Bonjour Colas Duflot.
Bonjour.
Philosophe, vous êtes professeur à l'Université Paris-Nanterre et auteur de plusieurs livres sur Diderot, ainsi que d'un ouvrage qui analyse le roman du XVIIIe siècle. Et bonjour Sylviane Albertan Coppola, vous êtes professeur émérite de littérature de l'Université d'Amiens, spécialiste des adversaires des Lumières, donc des querelles autour notamment de la philosophie dite fataliste, vous nous expliquerez tout cela. Vos ouvrages, comme ceux de Colas Duflot, sont précisés sur le site d'Avec Philosophie.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Tu vois, je te l'avais dit. Si elle m'aime pas, tant pis. Je crois pas que je puisse aimer une fille qui n'est pas amoureuse de moi. Et comme il n'y en a aucune qui m'aime, eh bien, je n'aime personne.
Tu veux que je te dise ce que je crois ? Je ne crois pas qu'elle t'aime, je ne crois pas que tu l'aimes non plus et je me demande même si elle existe.
T'as vu sa photo ?
Une photo, ça ne prouve rien. Elle existe peut-être, mais vous vous connaissez à peine et ce n'est pas uniquement pour elle que tu es venu.
Car tu penses que dans ce cas, je serai le dernier des idiots. Eh ben, je le suis. Maintenant, je sais pas si tu me comprends bien. D'une façon générale, dans la vie, je cherche pas à conquérir à tout prix. À provoquer le hasard. Par contre, j'aime que ce soit le hasard qui me provoque. Tu comprends ?
Par exemple ?
Par exemple, le jour même où elle m'a dit qu'elle serait vers le vin à Dinard, j'ai rencontré, par hasard, si je puis dire, un ami qui est d'ici et qui m'a offert sa chambre pour les vacances. Ce genre de situation, ça m'excite. Ça peut susciter l'événement comme ça peut ne rien susciter. Tu trouves ça fou ?
Pas du tout. Au fond, moi aussi, j'ai ce genre de comportement. Si je me suis intéressée à la Bretagne, c'est que des occasions se sont présentées au moment voulu. Et pour mes amours, les circonstances ont été plutôt contre moi, mais finalement, ça ne s'est pas si mal arrangé.
Vous venez d'entendre un extrait de Contes d'été, ce film d'Éric Rohmer de 1995, et vous entendiez notamment le personnage masculin incarné par Melville Poupeau, qui dit ceci: « Je ne veux pas provoquer le hasard, je veux au contraire être provoqué par lui ». Alors, on croit souvent que ceux qui invoquent le hasard et y croient sont tout à fait opposés aux réflexions qui invoquent le destin. Mais c'est un peu surprenant parce que ça prend la même forme. Au fond, s'ils croient au hasard, Il croit au destin. C'est le même genre de propos. C'est-à-dire, on croit dans une force, qu'elle soit hasardeuse ou qu'elle soit une destinée, qui est indépendante de sa volonté. C'est étrange comment le discours du hasard et le discours du destin se ressemblent. Vous ne trouvez pas, Colas Duflot ?
En réalité, c'est une question de point de vue. Ce qui est hasard pour nous est nécessité du point de vue de l'ordre de la nature.
Et vous diriez, parce qu'évidemment j'ai proposé cette introduction pour qu'on vienne doucement à Jacques le fataliste de Diderot, est-ce que c'est ce qui explique que tantôt Jacques donne sa philosophie en disant « il n'y a que des hasards » et tantôt il dit « mais tout est écrit d'avance ». Ça montre bien que le discours du hasard et le discours du destin se ressemblent.
Ah oui, oui. Encore une fois, ça dépend de la manière dont on le regarde. Ce qui va nous arriver à l'ère de bazar, et puis une fois que c'est arrivé, c'était nécessité. C'est-à-dire, on peut regarder ça d'un point de vue temporel aussi, oui. D'une certaine façon. C'est une fois que c'est arrivé qu'on sait que c'était nécessaire.
Donc c'est un état d'esprit qui invoque soit le hasard, soit le destin, mais c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylviane Albertan Coppola?
Eh bien, j'ai envie d'ajouter une première chose, c'est que il y a également une question de terminologie. Parce que à cette époque-là, il y avait uniquement les termes de fatalisme et fataliste.
Oui.
C'est attesté dans le dictionnaire de l'Académie dès 1762, alors que le mot déterminisme n'apparaîtrait qu'en 1793. Donc, il me semble que les deux conceptions coexistent dans Jacques le fataliste. C'est-à-dire que tantôt, on le croit fataliste, mais il est déterministe, Jacques. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a un enchaînement des causes et des effets,
oui.
Un peu comme dans la science. La nature tout entière, ainsi que l'homme, est soumise à des lois de la nature, donc, qui l'oblige en quelque sorte à agir contre son gré. Et ça, c'est la première chose que je voudrais ajouter. La deuxième, pour compléter ce qu'a dit Colas, c'est le fait que, mais ça va dans le même sens évidemment, c'est que dans Jacques le fataliste, qui est un roman,
oui.
Voilà. Il y a une illustration, on peut dire globalement, mais c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a une intrication entre roman et philosophie. Le roman n'est pas uniquement une illustration de la philosophie qui serait celle de Diderot. Comme c'est un roman, en fait, il va montrer, Diderot va montrer par les faits ce qu'il pense sur hasard et nécessité, en oui. gros. C'est-à-dire que lorsque Colas dit que c'est à la fin seulement que on peut savoir si c'était prédestiné ou pas,
oui.
Ben c'est illustré par le fait que il y a au début le Jacques qui s'enivre, qui finalement va se blesser et va être recueilli. Bon, ça, on peut dire c'est le hasard. Hein, c'est qui est placé au début du roman, et c'est le, comment dire, c'est l'événement de départ, et puis il y a l'événement final où il est avec Denise et qu'il a un avenir incertain, certes, mais voilà. Et entre les deux, oui, c'est le hasard, en fait.
Donc,
entre les deux, c'est le hasard. Et parce
oui.
que, voilà.
Dire,
mais il y avait quand même une ligne qui conduisait d'un événement à l'autre.
Donc, il
était
dit
déterminé.
Tantôt,
oui.
Il dit tantôt, tout est hasard. Et tantôt, tout est écrit d'avance, tout est destiné, tout est déterminé. Mais au fond, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la même chose de dire tout est hasard et tout est déterminé. Ça a l'air d'être le contraire, mais en tout cas, Jacques le fataliste tient les deux discours.
Il ne dit pas que tout est hasard, je sais pas.
En tout cas, au début,
là, oui.
Qu'est-ce
oui.
que vous en pensez?
On peut rajouter un terme, c'est la notion de possible. En réalité, le hasard, le vrai hasard, supposerait qu'il y ait des possibles. Mais il n'y a pas d'autre possible que ce qui est. Et donc, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est une...
Finalement, il est plus
c'est
déterministe
une illusion, c'est
que
une illusion,
penseur du hasard.
Oui, c'est une sorte d'illusion psychologique nécessaire. Nous pensons qu'il y a des possibles. Mais on voit bien, une fois que les choses sont faites,
voilà,
qu'il n'y avait pas d'autre possible que ce qui est.
En même temps, vous êtes d'accord que Diderot, puisque c'est quand même un peu lui qui parle, même si Jacques est parfois caricatural dans ce roman, pour Diderot, il y a quand même du hasard dans le monde. Il y a de la matière, des agencements et puis des rencontres entre des morceaux de matière. Enfin, on en a parlé dans le premier épisode ici, c'est quand même du hasard, comme chez les épicuriens où les atomes tombent, mais de temps en temps, on ne sait pas bien pourquoi, ils sont déviés, ça s'appelle le clinamen, et ça produit des rencontres. Il y a quand même du hasard pour Diderot dans la vie.
Ça c'est en réalité, non.
Enfin, ah bon, pas, non, alors
il y a du hasard, oui. Au sens où les atomes se rencontrent de façon, ça n'a pas de sens préétabli, donc ils se rencontrent. Mais quand vous lancez des dés, vous pouvez dire, d'un certain point de vue, il y a du hasard, oui. Vous ne connaissez pas le résultat, il n'a pas de sens déterminé.
Et pour Diderot, mais jeter les dés, c'est quoi ?
Le résultat du jeté des dés et la suite d'une... Enfin, le résultat, c'est la conséquence nécessaire des lois de la chute des corps et de tout un tas de choses qui nous échappent. Il y a hasard pour nous, parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas la nature.
Voilà. Et Diderot ne pense pas qu'au bout du bout, c'est une affaire de hasard.
C'est la même chose, comme vous l'avez dit vous-même en commençant, oui. En réalité, c'est la même chose.
C'est quand même une option métaphysique un peu différente. Il est tellement athée que l'idée qui est de la détermination renverrait davantage vers l'idée d'une volonté supérieure, divine, etc., non ?
Ah non, les choses s'écrivent au fur et à mesure. Oui. Mais comme quand vous lancez des dés, il n'y a pas d'autorité supérieure divine, les dés sont lancés. Mais d'une certaine façon... Le résultat ne pouvait pas être autre que
celui qui
est
arrivé. Bon, bah, vous m'avez piégé. J'ai fait la maline avec ma question sur hasard et destin, en disant c'est à peu près pareil. Et puis après, vous me l'avez encore plus montré.
Vous avez raison, c'est pareil.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est que, on a pu distinguer le déterminisme, puisqu'il faut employer ce mot, de Jacques, qui serait fixiste, comme celui des religions. Hein, en particulier, on pense à l'islam, bien sûr, pour la fatalité. Et le déterminisme de Diderot qui serait plus vitaliste. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité de la matière. Et donc, si on passe de la matière inerte à... c'est l'exemple de l'œuf, hein, à un être sentant et vivant, oui. Que ce soit l'animal ou l'homme qui de toute façon est un animal, eh bien il y a quelque chose qui se produit qui n'est pas, fixe. Donc c'est ce qui ajoute un peu de hasard dans l'affaire.
Oui. Oui. Alors quand même dans les discours... généraux, disant voilà c'est le hasard, ça ressemble beaucoup aux discours qui disent c'est le destin, mais il y a souvent une touche supplémentaire me semble-t-il qui est mais vraiment ça produit beaucoup d'aventures, la pensée du hasard fait référence aux aventures de la vie imprévues pensées comme telles, alors que le destin a tendance à figer davantage la vision de l'existence. Alors il y a un exemple de cela, c'est un autre Jacques. C'est Jacques du Titanic, de James Cameron, incarné par Leonardo DiCaprio, qui à un moment du film est interrogé et parle de l'existence. Et lui, il fait valoir le hasard comme raison profonde du fait que sa vie est une aventure.
Et où habitez-vous exactement, monsieur Dawson ?
Eh bien, pour l'instant, mon adresse est le RMS Titanic. Après, je dépends du bon vouloir de Dieu.
Et comment avez-vous les moyens de voyager ?
Je fais mon chemin de place en place. Je voyage souvent en cargo. Mais j'ai gagné mon voyage sur le Titanic en ayant une main chanceuse au poker. Une main très chanceuse.
Toute la vie est un jeu de chance.
Les vrais hommes créent eux-mêmes leur chance, Archie. N'est-ce pas, Dawson ?
Et vous trouvez que cette sorte de vie sans attache est amusante, je présume ?
Mais oui, madame, je trouve. Je veux dire, j'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. J'ai de l'air dans mes poumons et quelques feuilles blanches pour travailler. J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer? Où je vais échouer? Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Je vais en reprendre. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. On ne sait pas quelle donne on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. Oh, tenez, Cal. Pour que chaque jour compte.
Bien dit, Jack.
Tout à fait.
Pour que ce jour compte.
Pour que ce jour compte.
Colas Duflot, est-ce que Jack du Titanic ressemble à Jacques le fataliste?
Je suis pas sûr. En fait, je crois que ce qui change, c'est la question du... Pour répondre à votre question de tout à l'heure, ce qui change, c'est la question du sens. Au fond, il y a une différence entre celui qui pense qu'il y a un sens prédéterminé
et celui qui
dit que c'est le hasard. C'est-à-dire, et je crois que c'est ça la question que nous posons. Pour Diderot, il n'y a pas de sens prédéterminé. Voilà, les choses arrivent en effet.
Comme pour Jack, voilà. du Titanic.
Et de ce point de vue, en effet, il y a bien un lien. Le sens s'écrit au fur et à mesure.
Oui.
Voilà. Et c'est la différence entre ce qui nous apparaît comme hasard et ce qui nous apparaît comme destin. Du point de vue métaphysique, en un sens, c'est la même chose, puisque les choses ne pouvaient pas être autrement que ce qu'elles sont. Mais il n'y a pas de sens prédéterminé. Et c'est ce qui fait que nous avons le sentiment qu'il y a du hasard, c'est-à-dire les choses n'étaient pas écrites d'avance, nous ne savons pas où elles vont, elles ont un aspect absurde, comme cette anecdote que Diderot aime bien raconter sur Ésope.
Oui.
Il la raconte dans Jacques le Fataliste.
Racontez-la.
C'est Ésope qui va au bain et puis il rencontre la maréchaussée, qui le gendarme de l'époque, lui demande « Alors où allez-vous ? » Alors Ésope, qui veut faire le malin, dit « Est-ce qu'on sait où on va ?» Et du coup, le gendarme qui n'aime pas qu'on se moque de lui, il colle Ésope en prison. Et Ésope dit, vous voyez bien qu'on ne sait jamais où on va. Je pensais que j'allais au bain et je suis en prison. Voilà, ça, c'est l'exemple de ce qui nous apparaît comme hasard, parce que ça n'a pas de sens. C'est absurde.
Et c'est très agaçant, les fatalistes. Enfin, puisque les fatalistes, ce sont ceux qui invoquent soit le hasard, soit le destin, mais en tout cas, quelque chose qui est indépendant de notre volonté. Et dans l'exemple du Titanic, dans cette scène, on sent comment elle est agacée, cette dame qui mange face à ce vulgaire Jack, et lui dit, mais enfin, c'est terrible d'être sans attache. Ben oui, les fatalistes sont sans attache. Comme vous venez de le dire, ils se laissent balloter par la vie. Hasard ou destin. Pourquoi c'est si énervant, les fatalistes? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont énervés comme l'aristocrate face à Jack? Je parle de Jack du Titanic, là, dans l'extrait qu'on a entendu.
Écoutez, je ne sais pas pourquoi ils sont énervés, mais pour ce qui est de Jack...
Le fataliste de Diderot.
Voilà. Pour ce qui est de Jack, le fataliste, lui, tout simplement, il y a une contradiction entre ce qu'il professe, qui est une connaissance de seconde main, puisqu'il tire ses idées fatalistes de son capitaine, qui lui-même les tirait de Spinoza, et dans la vie, il agit souvent comme s'il n'était pas fataliste. C'est-à-dire que il agit pour se défendre, sans se dire, de toute façon, s'il est écrit que les brigands vont m'attaquer, je serai attaqué. Mais il se défend contre les brigands. Et c'est la même chose dans tous les actes de sa vie. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de mettre en accord une philosophie fataliste, entre guillemets, et des actions que l'homme, de toute façon, s'obstine à sentir libre. Le libre arbitre, c'est un sentiment intérieur que nous avons, même les fatalistes, et il y a des moments où ils se sentent libres d'agir.
C'est ça qui est agaçant. Voilà. Pas forcément cohérent.
Voilà. Enfin, en tout cas, le personnage, lui, ne l'est pas, un peu parce que ce n'est pas un vrai philosophe, que donc il est un peu confus, et un peu parce que c'est un personnage de roman.
Et voilà. Alors, on va y venir. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit un peu confus. Nous aussi, c'est difficile, ces sujets. Je veux dire, de parler clairement. De dire que destin ou hasard, finalement, c'est la même chose. Nous cherchons un peu nos mots ce matin. Oui, tout est normal à cause de la matière.
Et si vous voulez bien, je vais ajouter le point de vue, justement, des antifatalistes.
Ah ben, je vous écoute. Avec gourmandise, parce qu'ils sont terribles au 18e.
Voilà. Parce que donc, il y a cet abbé Pluquet, dont il a été parlé dans une autre émission, qui a écrit l'examen du fatalisme en 1757. Et voici ce qu'il dit. Vous n'allez peut-être pas être contente parce que ça complique encore les choses, mais en même temps, ça les éclaire. Complique. Voilà. Alors, il dit que finalement, les fatalistes ont une doctrine qui est basée sur la nécessité, qui exclut radicalement les notions de hasard et de liberté. Donc, là, c'est présenté comme antithétique.
Ce qu'il déteste le plus, c'est quand même les discours du hasard, les discours du destin, les dérangements, voilà, parce les antifatalistes.
Que, voilà, si on prend ensuite l'abbé Bergier, il a été question de l'encyclopédie méthodique dans l'une de vos précédentes émissions. Et c'est, l'encyclopédie méthodique, elle vient après la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et elle est recomposée de manière thématique. C'est-à-dire qu'il y a certes ordre alphabétique volume par volume, mais chaque volume est consacré à une discipline. Donc, à l'abbé Bergier est confié le dictionnaire de théologie. Mais il distingue la théologie de la philosophie. C'est pas la même chose. Normalement, ce n'est pas son domaine. Et voici ce qu'il dit. C'est au philosophe, pas à entendre au sens de philosophe des Lumières, au philosophe, hein, tel que Socrate, et puis ceux qui sont philosophes au XVIIIe siècle, qui soient anti-chrétiens ou pas. C'est au philosophe de réfuter ce système, donc le système du fatalisme, absurde, mais si opposé à la religion et si rebattu que nous ne pouvons nous empêcher de faire quelques réflexions dans un dictionnaire de théologie. Donc ça rejoint la question de la théologie et ce qui le choque le plus, c'est que dans l'hypothèse de la fatalité, il n'y a point de providence.
Et ce qui n'est pas certain, comme vous venez de le dire très bien, Colas Duflot, tout à l'heure. Nous, on n'en sait rien. Pour nous, c'est du hasard. Mais au fond, peut-être que tout est écrit. D'ailleurs, Jacques dit aussi souvent, Jacques le fataliste, tout est écrit que bah, cela, c'est le hasard des rencontres. Donc, c'est bizarre, les antifatalistes sont énervés par le discours du hasard. Mais nous venons de dire depuis 20 minutes qu'au fond, nous n'en savons rien. Quand on invoque le hasard, on ne sait pas. C'est le fait qu'on ne sache pas, qu'on ne soit pas sûr qu'il y ait une volonté divine qui les énerve.
Alors, je crois que ce qui agace le plus dans le fataliste, dans le personnage du fataliste, c'est qu'il ne croit pas en la liberté humaine. Et ça, c'est une illusion, enfin, de son point de vue, c'est une illusion à laquelle nous sommes très fortement attachés. Et donc, quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas de liberté semble nous priver de quelque chose. Et en réalité, il ne nous prive de rien, puisqu'il nous prive d'une illusion. Mais on a l'impression qu'on nous confisque quelque chose qui faisait la grandeur de l'homme, le choix infini, qui nous faisait à l'image de Dieu. Enfin, tout ce blabla augustinien, dirait
Diderot. Mais en même temps, chez Augustin, la liberté, c'est peu de choses. C'est plutôt figure cartésienne, du libre-arbitre, oui, etc., oui, mais... qui est en jeu. Bah, les religieux, pourquoi sont-ils énervés, les abbés là dont vous parlez?
Ils ont besoin, dirait Diderot, tout ça fait système, ils ont besoin de la notion de liberté pour qu'il y ait vice, vertu, péché,
oui,
etc. Tout le système, responsabilité, providence, enfin, ça s'entendait très bien dans la citation de l'abbé Berger. D'une certaine façon, le fataliste nie l'ensemble du système métaphysico-théologique dans lequel nous sommes construits. Celui que construit Augustin, dont Descartes hérite, dont Kant aussi hérite d'une certaine façon. Le fataliste, il dit non, il n'y a pas de liberté de la volonté.
Donc c'est, aussi c'est religieux et croyant que l'on soit, pour qu'il y ait de la morale... Il faut que l'homme ait une part de liberté. Et c'est ça que le fataliste, de manière très énervante pour les religieux, met en cause.
Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque on prône l'idée de nécessité, de fatalisme, on exclut la providence, donc on exclut Dieu. Voilà, c'est là le problème. Et les apologistes du christianisme, les adversaires de Diderot, entre autres, associent, font un amalgame hein, entre fatalisme et matérialisme.
On va lâcher le mot quand même. Le non gênant, le mouton noir derrière le fatalisme, c'est Spinoza, non? C'est pas Spinoza le problème? Celui qui a dit, oui, que la nature est un tout, qu'elle a ses lois et qu'elle crée du déterminisme, même si ça nous apparaît comme du hasard. Il n'y a pas de volonté divine, personnelle, d'un dieu providence. il n'y a pas tellement de liberté humaine, si ce n'est en partie de manière illusoire. C'est Spinoza qui est visé, non, je me trompe?
Spinoza a beaucoup influencé les philosophes des Lumières, mais il n'est pas complètement, sa philosophie n'exclut pas totalement Dieu. Hein. Mmh. C'est une immanence, il est immanent. Enfin, il y a un panthéisme de Spinoza, enfin, on a beaucoup discuté là-dessus. Cola va compléter.
Bien sûr, c'est du spinozisme. Au sens où on l'entend au XVIIIe siècle, c'est-à-dire ça ne passe pas forcément par une lecture. Aujourd'hui, nous avons une lecture directe de Spinoza, nous lisons les textes, mais au fond, au XVIIIe siècle, les textes de Spinoza circulent mal, mais en revanche, ce qui circule très bien, ce sont un certain nombre d'idées qui sont identifiées au spinozisme, comme l'identité de Dieu et de la nature. Au fond, il n'y a que la nature. Et Diderot a une interprétation très matérialiste de Spinoza, que peut-être les spinozistes rigoureux d'aujourd'hui n'accepteraient pas complètement. Hein, donc l'identité de Dieu et de la nature, ça c'est ce qu'il retient, hein, le fait qu'il n'y a que la matière, c'est ça le spinozisme moderne, mais aussi toutes les conséquences du spinozisme, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de liberté, que la liberté de la volonté est une forme d'illusion sur nous-mêmes. Nous croyons être libres parce que nous ignorons nos désirs et ce qui les cause. Voilà, enfin, tout ce...
Et Spinoza est dans la bouche de Jacques Capitaine. Voilà, je cite, « Son capitaine lui avait fourré dans la tête, écrit Diderot, toutes ses opinions qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza qu'il savait par cœur. »
Jacques retient un certain nombre de philosophèmes spinozistes.
Et oui.
Voilà, et qu'il est capable de citer sa définition de la prudence, sa définition voilà, et il débat avec son maître qui est plutôt cartésien. Le maître défend l'idée qu'il y a de la finalité dans la nature, une providence, de la liberté. Voilà, et le maître a cette philosophie commune que Jacques réfute en acte.
Alors, nous parlons ce matin de Jacques le Fataliste, de Diderot, ce roman qui met en scène une philosophie, le fatalisme, qui est difficile, je trouve, à expliciter. Il y a à la fois l'idée du hasard et l'idée d'une détermination. Les deux, d'une certaine manière, s'articulent dans la philosophie fataliste. Je suis en compagnie de Colas Duflot et Sylviane Albertan Coppola qui éclairent pour nous cette notion de fatalisme. Alors, le début du roman, pour le coup, c'est le hasard qui est invoqué. C'est d'abord le hasard. Comment s'étaient-ils rencontrés, écrit Diderot, par hasard, comme tout le monde? Comment s'appelait-il? Que vous importe? D'où venait-il? Du lieu le plus prochain. Où allait-il? Est-ce que l'on sait où l'on va? Que disait-il? Le maître ne disait rien et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. On commence sur le hasard, on finit sur le destin. Tout est dans ces quatre mots, mais surtout, Sylviane Albertan Coppola, le problème qui est posé, c'est celui du roman. Alors c'est quoi ce narrateur et l'auteur derrière lui? C'est lui Dieu? C'est lui qui va incarner le hasard? Ou c'est lui qui a tout écrit d'avance? Au fond, l'incipit du roman interroge le statut même du roman.
Oui, tout à fait. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que il y a plusieurs voies narratives, et lorsque on lit, Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut, c'est la pensée de Jacques. Mais comment s'était-il rencontré par hasard comme tout le monde? C'est le narrateur qui parle. Et vous avez raison d'en venir au roman. Parce que nous avons ce lien entre roman et philosophie qui est passionnant au XVIIIe siècle. Hein. On en a beaucoup parlé dans les milieux XVIIImistes. Et ce qui se passe, j'avais commencé à en dire deux mots, c'est que il n'y a surtout pas une illustration d'une philosophie établie par le roman Jacques le Fataliste. Il n'y a même pas une distribution des idées entre ceux qui seraient pour et ceux qui seraient contre, ça serait trop simple. Oui. Voilà. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que Diderot se sert du roman pour presque à titre expérimental, comme il aime bien faire dans des tas de domaines et comme tous ces confrères philosophes au XVIIIe siècle font pour faire avancer la philosophie. Hein. Je pense à cette histoire de polype aussi, en particulier. Donc, on expérimente, et là, on expérimente les lois, les ressources romanesques pour faire toucher du doigt ce qu'est le fatalisme. Alors, il y a des tas d'exemples. Hein. Il y a l'exemple du cheval, il y a l'exemple de la gourde. Si vous voulez, celui du cheval, en quelques mots, j'ai le temps.
Je vous laisse évidemment nous expliquer cet épisode.
Donc, le maître tombe du cheval, il se blesse au genou, et là, il reconnaît que Jacques a dit vrai. Le mot douleur n'a de sens que s'il nous rappelle une sensation vécue. Là, c'est le roman qui a une fonction illustrative, celle du fatalisme, du sensualisme. Ensuite, plus tard, pendant que Jacques est parti récupérer la montre et la bourse du maître qui avait été oubliée, le maître s'est endormi, mais son cheval a disparu. Et tout d'un coup, en cheminant, on aperçoit un homme qui s'avance vers eux, tenant un cheval par la bride. On se dit, c'est celui qui a été volé, on le retrouve. Eh bien non, point du tout, parce que ce n'est pas un roman. Et là, si vous voulez, le thème philosophique du fatalisme est partie intrinsèque de l'aventure romanesque. Et c'est l'occasion pour Diderot de donner aussi à son roman non seulement une fonction illustrative, mais une fonction littéraire,
critique,
dénoncer
aussi.
Les artifices du roman.
Mais oui, voilà. Alors vous allez évidemment nous éclairer aussi sur ce point, Colas Duflot, mais enfin, donc après cet incipit, il y a un petit échange entre Jacques et le maître, on est dans les premières pages du roman, et Jacques dit, voilà, bah, si je n'étais pas rentré dans l'armée, je ne me serais pas blessé au genou, et si je ne m'étais pas blessé au genou, je n'aurais pas rencontré l'amour, etc., etc. On va écouter la suite du dialogue, mais ce qui est frappant, c'est qu'à un moment, le narrateur, c'est-à-dire l'auteur, nous dit « et maintenant, je fais ce que je veux hein. ». C'est-à-dire, ou je vous le raconte tout de suite, ou je vous le raconte après. Il y a cette espèce d'arbitraire du hasard ou du destin que le narrateur semble mettre en scène. Écoutez.
« Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie, ni boiteux. »«
Tu as donc été amoureux ?»«
Si je l'ai été. »
Et cela par un coup de feu.
Par un coup de feu.
Tu ne m'en as jamais dit un mot.
Je le crois bien.
Et pourquoi cela?
C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard.
Et le moment d'apprendre ses amours est-il venu?
Qui le sait?
À tout hasard. Commence toujours.
Vous voyez, auditeur, que je suis en bon chemin. Et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu? D'embarquer Jacques pour les îles, d'y conduire son maître, de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau. Qu'il est facile de faire des comptes. Mais ils en seront quittes l'un et l'autre pour une mauvaise nuit. Et vous, pour ce délai.
Et vous entendez là une adaptation du roman Jacques le Fataliste pour France Culture, enfin non, pour RTF Promotion, qui était l'ancêtre de France Culture en 1963, cette adaptation. Et c'est pourquoi, au lieu de mettre « vous voyez lecteur », comme dans le texte de Diderot, eh bien, c'est « vous entendez auditeur » ou « vous voyez cher auditeur ». Mais c'est terrible, parce que ça veut dire que l'auteur ou le narrateur, enfin bon, bien évidemment, il y a quelqu'un qui conçoit le roman, Diderot lui-même, prévient, il dit, bon ben maintenant, je fais ce que je veux, je vous fais attendre 3 ans si j'ai envie pour vous ayez les amours de Jacques en récit. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce geste de Diderot qui révèle l'arbitraire du roman?
Oui, alors Diderot écrit, comme l'a dit Sylviane tout à l'heure, un roman philosophique, et c'est vraiment à entendre au sens où le roman lui-même est un exercice de philosophie, et pour l'écrivain, et pour le lecteur. Ce n'est pas un roman qui serait l'illustration d'une philosophie, c'est en soi un travail philosophique que d'écrire le roman. Et il écrit un roman qui s'adresse en effet à un lecteur qu'on ne cesse... C'est le troisième personnage qu'on ne cesse d'interpeller. Dans tout le livre, on s'adresse tout le temps à vous, vous lecteur, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et Diderot ne cesse d'impliquer le lecteur dans la lecture du roman, de lui dire, qu'est-ce que... Vous allez croire que c'est à vous de tirer les conclusions de ceci, de cela, etc. C'est ce qu'on peut appeler... Diderot se rattache dans ce roman à une tradition qui, au fond, remonte à Don Quichotte, qui est la tradition de l'anti-roman, c'est-à-dire le roman qui se moque du roman et des attentes romanesques. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler un anti-roman du lecteur, c'est-à-dire le narrateur ne cesse d'interpeller le lecteur en lui disant « Ah, vous avez des attentes romanesques, vous allez croire que ça va se passer comme ça. » Eh ben non, voilà. Donc,
je suis l'instance du hasard ou du destin, comme vous voudrez. De toute façon, vous m'avez bien expliqué tous les deux et j'en avais la vague intuition, mais vous êtes allé tellement loin que j'ai été débordée que c'est à peu près pareil, qu'en fait il y a quelque chose qui nous dépasse. Bon, eh bien c'est moi qui l'incarne, moi l'auteur du roman. Et ben vous savez quoi, je vais vous le montrer que vous ne maîtrisez rien.
Le voilà, l'auteur organise et en même temps le narrateur ne cesse de dire j'organise, mais en fait je lis des papiers. Il y a aussi il y a une sorte d'incertitude dans le texte même.
C'est-à-dire je lis des papiers.
À la fin du texte, il dit voilà, mes documents s'arrêtent là, donc je peux pas vous raconter autre chose que ce qui est déjà écrit, puisque je vous raconte quelque chose qui est déjà écrit. Et il y a une sorte d'ambiguïté même dans la position du narrateur, qui à la fois a l'air de dire j'invente et en même temps a l'air de dire je me fonde sur des documents qui me disent ce qui s'est vraiment passé.
On va continuer un peu la lecture avec cette très jolie adaptation de 1963 pour RTF Promotion de Jacques le Fataliste, le roman de Diderot. Écoutez comment Jacques, un peu plus loin, raconte, donc ça y est, on rentre dans les amours de Jacques, le narrateur ou l'auteur est décidé à nous les raconter, et Jacques raconte sa rencontre avec cette femme à partir de sa blessure au genou. Écoutez.
Eh bien, Jacques, où en étions-nous de tes amours ?
Nous en étions, je crois, à la déroute de l'armée ennemie. On se sauve, on est poursuivi, chacun pense à soi. Je reste sur le champ de bataille, enseveli sous le nombre des morts et des blessés, qui fut prodigieux. Le lendemain, on me jeta avec une douzaine d'autres sur une charrette pour être conduit à un de nos hôpitaux. Ah, monsieur, je ne crois pas qu'il y ait de blessure plus cruelle que celle du genou.
Allons donc, Jacques, tu te moques ?
Non, par Dieu, monsieur, je ne me moque pas. Il y a là je ne sais combien d'os, de tendons et d'autres choses qu'ils appellent je ne sais comment. Enfin, quoi qu'il vous plaise de penser, la douleur de mon genou était excessive. Elle s'accroissait encore par la dureté de la voiture, par l'inégalité des chemins, et à chaque chaos, je poussais un cri aigu.
Parce qu'il était écrit là-haut que tu crierais ?
Assurément. Je perdais tout mon sang, et j'étais un homme mort. Si notre charrette, la dernière de la ligne, ne se fût arrêtée devant une chaumière... Là, je demande à descendre, on me met à terre. Une jeune femme qui était debout à la porte de la chaumière rentra chez elle et en sortit presque aussitôt avec un verre et une bouteille de vin. J'en bus un ou deux coups à la hâte. Les charrettes qui précédaient la nôtre défilèrent. On se disposait à me rejeter parmi mes camarades lorsque, m'attachant fortement aux vêtements de cette femme et à tout ce qui était autour de moi, je protestais que je ne remonterais pas et que, mourir pour mourir, j'aimais mieux que ce fût à l'endroit où j'étais qu'à deux lieues plus loin. En achevant ces derniers mots, je tombais en défaillance. Au sortir de cet état, je me trouvais déshabillé et couché dans un lit qui occupait un des coins de la chaumière, ayant autour de moi un paysan, le maître du lieu, sa femme, la même qui m'avait secouru, et quelques petits-enfants. La femme avait trempé le coin de son tablier dans du vinaigre et m'en frottait le nez et les tempes.
Oh, malheureux, coquin! Infâme, je te vois arriver.
Oh non, maître, je crois que vous ne voyez rien.
N'est-ce pas de cette femme que tu vas devenir amoureux ?
Et quand je serai devenu amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y aurait à dire ? Est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux ? Et quand on l'est, est-on maître d'agir comme si on ne l'était pas ? Si cela eût été écrit là-haut, tout ce que vous vous disposez à me dire, je me le serais dit, je me serais souffleté, je me serais cogné la tête contre le mur, je me serais arraché les cheveux. Il n'en aurait été ni plus ni moins, et mon bienfaiteur eût été cocu.
Thank you.
Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Et certains auront reconnu les voix de Jean-Pierre Cassel et de Jean-Roger Caussimon dans cette adaptation par Roger Piodin de Jacques le Fataliste de Diderot. Difficile, je trouve, philosophiquement, le problème qui est posé là. C'est-à-dire que Jacques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sylviane Albertan Coppola, agit comme s'il avait du libre arbitre, comme si les choses dépendaient de sa volonté, et se dit, bah, de toute façon, si elles doivent arriver autrement, bah, ça se verra. Donc, ça veut dire aussi arrêter de m'accuser, de me donner une responsabilité. J'ai joué ma partition, j'ai pas vraiment pu faire autrement, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis quoi, finalement? Personne n'est responsable, alors, dans le fatalisme? De rien?
Eh bien, c'est ce que craignent justement les adversaires du fatalisme, que la profession de fatalisme exclut la responsabilité. Oui. Et quand ils répondent à leurs adversaires philosophes, ils citent la Bible, évidemment, hein, de leur point de vue. Adam et Ève avaient le choix. Quand Moïse revient avec les tables de la loi et qu'il les propose au peuple hébreu, ils ont le choix d'appliquer les lois ou pas. Et c'est comme ça dans d'autres endroits. Noé aussi a le choix. Et à Sodome et Gomorre aussi, on a le choix de choisir le bien ou le mal. Et donc, si on adopte le fatalisme, il n'y aurait plus, selon les adversaires, de responsabilité. Alors, c'est un problème qui est très important au XVIIIe siècle, dans le débat en général. Oui. Voltaire aussi s'en mêle. Dieu, hein, si on reste sur le point de vue de la providence divine, de l'existence d'un Dieu, si Dieu a tout prévu, comment peut-il nous accuser de péché après? Et donc, les adversaires du fatalisme, soit se réfèrent à la Bible, soit ils prononcent l'idée de libre arbitre. Non. Voilà. Donc,
libre arbitre, alors même que d'un point de vue religieux, il est aussi limité. Voilà. Puisque Dieu est au-dessus.
Que donc, de querelles. C'est pour ça que tout ça est là-dessus.
Très, oui. Délicat. Alors donc, quand le maître dit à Jacques, ah, petit coquin, t'as séduit la Denise, devant son propre mari, Jacques se rebelle. Il dit, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, de toute façon, arrêtez de m'accuser. Si vraiment il devait être cocu, cet homme, eh ben, il l'aurait été. Alors d'ailleurs, l'a-t-il été, en fait, dans le roman?
En réalité, ça vient de. On l'entend très bien dans le passage qu'on vient de lire. Hein, nous vivons dans l'illusion des possibles. Illusion dont, par ailleurs, Jacques se moque. Il a cette merveilleuse formule. Hein, on est toujours à dire si, et si, et si, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Et il a cette formule merveilleuse qui est « si la mer bouillait, il y aurait bien des poissons de cuit ». Ce qui est merveilleux dans Jacques, ouais. C'est que c'est un personnage populaire et donc il a comme ça des formules qui sonnent comme des formules populaires. « Si la mer bouillait, il y aurait bien des poissons de cuit ». C'est-à-dire, au fond, j'avais fait autre chose que ce que j'ai fait, j'aurais été quelqu'un d'autre. J'aurais été en même temps moi-même et quelqu'un d'autre. C'est pour ça que l'illusion du choix est une forme d'illusion. Mais ça n'empêche pas la responsabilité, pour reprendre votre question. D'une certaine façon, le pommier est responsable de faire des pommes. Et c'est ses pommes et c'est lui qui en est l'auteur.
Il est responsable de faire ses pommes.
Bien sûr, le pommier...
C'est pas les lois de la nature.
Le pommier est l'auteur de ses pommes, comme vous êtes l'auteur de vos actes.
Oui, mais c'est pas de la volonté pour Diderot.
C'est si. La même chose.
C'est de la volonté.
Bah, si le pommier avait conscience de ce qu'il fait, au fond, la volonté, c'est la conscience de ce que nous sommes.
Mais il y a quand même quelque chose de mécanique. Se soustrayant à la volonté dont parle souvent Diderot, et en particulier dans ses éléments de physiologie, où il parle de l'homme en évoquant plus du désir avec ses mécaniques que de la volonté. Et là aussi, il me semble que c'est très proche de Spinoza, mais c'est vous les spécialistes.
Oui, bien sûr,
Je vous propose qu'on écoute cet extrait des éléments de physiologie de Diderot, où celui-ci qui est invoqué, c'est l'homme.
Histoire expérimentale de celui-ci. Je le suis et je l'examine. C'était un géomètre. il s'éveille. Tout en rouvrant les yeux, il se remet à la solution du problème qu'il avait entamé la veille. Il prend sa robe de chambre, il s'habille sans savoir ce qu'il fait, il se met à table. Il prend sa règle et son compas. Il trace des lignes, il écrit des équations, il combine, il calcule sans savoir ce qu'il fait. Sa pendule sonne. Il regarde l'heure qu'il est. Il se hâte d'écrire plusieurs lettres qui doivent partir par la poste du jour. Ces lettres écrites, il s'habille, il sort, il va dîner chez son ami. La rue où demeure cet ami est embarrassée de pierres. Notre géomètre serpente entre ces pierres. Il s'arrête tout court. Il se rappelle que ces lettres sont restées sur sa table ouverte, non cachetées et non dépêchées. Il revient sur ses pas, il allume sa bougie, il cachette ses lettres. Il les porte lui-même à la poste. De la poste, il regagne la maison où il se propose de dîner. Il y entre, il s'y trouve au milieu d'une société de philosophes, ses amis. On parle de la liberté, et il soutient à corps et à cri que l'homme est libre. Je le laisse dire, mais à la chute du jour, je le tire en un coin, et je lui demande compte de ses actions. Il ne sait rien, mais rien du tout de ce qu'il a fait. Et je vois que machine pure, simple et passive de différents motifs qui l'ont mue, loin d'avoir été libre, il n'a pas même produit un seul acte exprès de sa volonté. Il a pensé, il a senti, mais il n'a pas agi plus librement qu'un corps inerte, qu'un automate de bois qui aurait exécuté les mêmes choses que lui. L'on dit que le désir naît de la volonté. C'est le contraire. C'est du désir que naît la volonté. Le désir est fils de l'organisation, le bonheur et le malheur fils du bien-être ou du mal-être. On veut être heureux.
Colas Duflot, cette description de l'homme qui, je cite, n'a pas même produit un seul acte exprès de sa volonté, c'est comme une mécanique du désir. Pourriez-vous nous commenter ce texte de Diderot ? Alors,
ce texte, comme vous l'avez dit, est extrait des éléments de physiologie. C'est déjà très important. On a un texte sur la liberté qui est dans un livre de physiologie. Ça, c'est un geste proprement matérialiste, au fond. Et ce qui compte, c'est le corps. Hein. C'est, oui. Nous sommes le corps. C'est une histoire expérimentale. Et ça, c'est aussi très important. Descartes disait... La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par l'expérience que nous en avons. Et Diderot répond, oh, d'accord, ok. Quelle expérience avons-nous en réalité ? Regardons quelqu'un, d'Alembert en l'occurrence, il s'agit d'Alembert, mais regardons sa journée. Ben, il se lève, il est traversé par une série de choses à faire, il les fait, se remet au problème. Donc il est traversé par une série de causes et d'effets. Au fond, il continue les actions qu'il avait déjà commencées la veille, il va dîner chez ses amis parce qu'il est invité. Enfin, il fait tout un tas de choses toute la journée, de son plein gré, bien sûr. Et puis, à la fin, il va chez ses amis et il discute de philosophie. Et bien sûr, il défend l'idée de liberté de la volonté. Et puis, le narrateur, Diderot, lui demande « Mais à quel moment avez-vous fait un acte libre ?» Au fond, à aucun moment de la journée, il a toujours fait un acte qui s'explique parce que nous faisons partie d'un réseau de causes et d'effets.
Oui, mais il y a plein d'objections, les conflits intérieurs. Alors, j'y vais à ce dîner ou j'y vais pas, la réflexivité, les changements de décision. Qu'est-ce qu'il en fait, Diderot ?
Mais en fait, toutes ces choses s'expliquent parce que tout ce qu'il va... Admettons qu'il hésite, voilà, il a oublié sa lettre, il revient sur ses pas. Bon, on pourrait dire, ah, il y a un acte de liberté. Au fait, non, c'est qu'il était préoccupé par quelque chose, une raison à peser dans la balance plutôt que l'autre. Mais tout ça s'explique en effet par une sorte de mécanique de la volonté, des désirs, enfin voilà.
C'est
des
choses Spinoza, ça ?
Bien sûr, c'est oui. Une forme de spinozisme moderne. Enfin, Diderot dit lui-même qu'il est une sorte de spinoziste moderne, c'est ça, c'est un spinoziste, mais dans son versant matérialiste. Chez Spinoza, ce ne serait pas dans un livre d'éléments de physiologie. Chez Diderot, oui.
Est-ce que vous pensez, Sylviane Alberton Coppola, que c'est dans ce texte, peut-être, des éléments de physiologie, qu'on trouve la vérité de Jacques le Fataliste ?
Ah non,
Ah.
Parce que je ne pense pas qu'il y ait une vérité de Jacques le fataliste. Diderot s'ingénie au contraire à nous montrer l'inverse, c'est qu'il y a plusieurs points de vue. Et s'il y a une idée sur laquelle je voudrais terminer, au passage, tout en parlant de fatalisme, on a montré que il y avait liberté totale du créateur, de l'écrivain.
Oui.
Il fait ce qu'il veut, il nous le dit dès l'incipit, et à chaque épisode, il dit ça pourrait se passer comme ça, mais moi je n'écris pas un roman, donc vous en êtes quitte pour attendre, etc. Et Diderot, il a une autre forme de liberté aussi, cette fois en tant qu'auteur et pas seulement en tant que narrateur. C'est celle d'exposer les différents points de vue sans jamais prendre parti. En tout cas, pas un parti définitif.
Enfin, ça, c'est un très grand sceptique, en vérité.
Oui,
il laisse des textes analysables de multiples façons. Mmh. Et je suis contente que vous terminiez sur cette note ouverte, alors que c'est vrai qu'on aurait pu finir sur une note spinoziste avec ce mécanisme du désir.
Non, on ne peut pas l'enfermer dans des catégories, c'est évident. Surtout qu'il y a plusieurs périodes de son itinéraire philosophique, en plus.
Vous êtes d'accord avec le mot de sceptique en dernier mot, Nicolas?
Qu'il soit sceptique, ça ne fait aucun doute. Je pense aussi qu'il est fataliste.
Merci de finir dans le trouble qui est très typique de ce que produit Diderot sur nous. J'étais au bon endroit, mais ça devait être le mauvais moment. J'ai fait le bon voyage, mais j'ai dû utiliser la mauvaise voiture. Voici quelques-unes des paroles de cette chanson de Dr. John, Right Place, Wrong Time, 1973. Merci beaucoup, Colas Duflo et Sylviane Albertan Coppola, pour vos analyses du fatalisme, selon Diderot. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle du plaisir. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi l'amour va-t-il au-delà du plaisir? On pourrait commencer cette chronique, la réponse à cette question « Pourquoi l'amour va-t-il au-delà du plaisir ?» par évoquer une chanson très célèbre. « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Il y a dans cette dualité très célèbre une profondeur très grande. L'amour est un plaisir, mais un plaisir passager. On pourrait imaginer ici le plaisir sexuel, le plaisir de la rencontre, et quand tout va bien, on l'oublie en effet. Par contre, quand tout va mal, chagrin d'amour dure toute la vie. Alors, paradoxalement, le chagrin d'amour est plus durable, plus profond que le petit plaisir, le plaisir passager, l'amour réduit au plaisir, réduit peut-être au plaisir sexuel, réduit à la sexualité, qui change tout le temps d'objet, comme la libido dans la première psychanalyse de Freud, et le plaisir se dépêche de passer. Par contre, la blessure de l'amour trahi, de l'amour souffrant, ne cesse de résister. Il y a pourtant, dans la persistance même du chagrin d'amour, quelque chose qui nous montre en quoi le plaisir d'amour lui-même est plus profond qu'il n'en a l'air, en quoi il va au-delà du simple plaisir passager. Pourquoi le chagrin d'amour est-il durable? Le chagrin d'amour est durable parce que justement, ce n'est pas seulement une petite souffrance passagère. Il vient atteindre ce qui définit l'amour, c'est pas seulement la satisfaction d'un besoin, d'un sujet, c'est aussi un lien profond avec un objet, avec un autre. L'amour, ça n'est pas le quelconque, ça n'est pas le plaisir quelconque, la satisfaction d'un besoin, par exemple sexuel. L'amour, c'est un lien définitif et affectif avec un autre, avec par exemple une figure parentale dans l'attachement initial, avec un être aimé dans une rencontre. Et au fond, c'est pourquoi le chagrin nous prouve la réalité de l'amour qui s'attache à quelqu'un et non pas seulement à une fonction, pas seulement à la sexualité en général, mais à un visage, un sourire et une voix qui vont nous manquer définitivement. Alors, le chagrin d'amour nous prouve en quoi l'amour va au-delà du plaisir, même dans sa positivité. Ce n'est pas vrai que le plaisir d'amour ne dure qu'un instant, car nous avons aussi le souvenir heureux de tel ou tel moment, de tel ou tel visage, qui vont au-delà du plaisir passager, même si la souffrance se grave deux fois, parce qu'il y a toujours la double peine de la souffrance et de sa remémoration. Quand il faut aller au-delà du plaisir, au-delà du principe de plaisir, Freud lui-même dégage deux directions. Il y a celle qu'on découvre le plus souvent dans ce texte de 1920, tout à fait majeur, au-delà du principe de plaisir, c'est la mort. Thanatos, au-delà du principe de plaisir, les sujets humains, paradoxalement, peuvent rechercher le négatif. Et ça prouve que le plaisir n'explique pas tout. Mais d'un autre côté, ce qu'il y a au-delà du plaisir, chez Freud lui-même, on l'oublie. C'est justement l'amour, non seulement Thanatos, mais Eros. Oui, l'amour va au-delà du plaisir, il passe par le plaisir, mais il va jusqu'à l'autre, l'autre dont la perte ou la trahison peuvent nous faire souffrir, mais dont l'amour nous régale, pour ainsi dire, pour toujours.
Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Axel Dubois, Antoine Ravon et Lila Bozès. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.
Se préparer au grand oral du bac, prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre par des livres ou par des enseignements ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.